téléphone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour à tous, nous sommes au Salon du Livre de Genève cette semaine pour une édition spéciale de la librairie francophone. Nous allons recevoir les invités qui font l'événement ici sur ce salon. Michel Laya vient de publier son nouveau roman. Il sera question de la liberté face aux conventions, un hymne à la vie qui regarde le monde dans sa diversité. Peut-on s'affranchir des contraintes de notre société sans être vu comme un marginal? C'est l'une des questions que nous posons. Nous aborderons l'actualité mondiale du moment avec deux écrivains. Véronique Tadjo, tout d'abord, vous parlera de la Côte d'Ivoire avec un roman sensible sur un retour au pays natal, un pays transformé par les conflits. Et puis Daniel Deroulet publie un court récit surprise en cette fin avril, une longue lettre qui s'adresse à l'une de ses amies au Japon, un petit livre choc sur la catastrophe nucléaire de Fukushima. Et vous le savez, cette émission est diffusée par les ondes sur trois continents, en Suisse sur la première chaîne de la radio suisse romande, en Belgique sur la première chaîne de la RTBF, en Afrique et dans toute l'Europe avec RTBF International, au Canada sur la première chaîne de Radio-Canada, sur le continent américain avec la radio numérique Sirius, en France et dans les départements d'outre-mer sur France Inter.
Librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et place à nos libraires en ce début d'émission, comme d'habitude, Marie Musy, libraire à Oron-la-Ville, est en plateau avec nous. Bonjour Marie.
Et bonjour Emmanuel.
On commence avec vous, puisque vous êtes là sur ce Salon du Livre de Genève, où il y a une très belle ambiance d'ailleurs. J'ai fait un tour tout à l'heure, il y a énormément de jeunes hein, qui s'intéressent aux livres, et c'est une bonne nouvelle. On commence avec vous d'ailleurs, avec la catégorie bande dessinée. Et quelle bande dessinée, Marie?
Une BD absolument magnifique. Je ne sais pas, Emmanuel, si vous vous êtes déjà retrouvé bloqué par la neige en pleine montagne dans un petit chalet.
Non, moi, c'est plutôt le bord de mer.
Ah, vous auriez dû me dire.
Bloqué.
Dans un carrosse royal, je sais. Ça vous aurait
non,
beaucoup...
même pas, non.
Bon, en tout cas, c'est ce qui est arrivé à Mathieu Berthaud, un illustrateur valaisan qui, pour tromper l'ennui, hein, s'est plongé dans la bibliothèque familiale. Et puis là, il est tombé sur Nouvelles et morceaux de Ramu. Et puis l'idée lui est venue d'adapter en bande dessinée quatre textes issus de ce recueil de nouvelles. Alors le résultat s'intitule L'homme perdu dans le brouillard et c'est vraiment une BD merveilleuse où, comme à son habitude, Ramu nous parle de la terre, de la montagne, d'hommes et de femmes qui sont victimes de la fatalité ou de la dureté de la nature. Et puis ben, les dessins en noir et blanc de Mathieu Berthaud viennent encore appuyer la profondeur, la gravité des mots de Ramu. Cet album est publié par Les Impressions Nouvelles, une maison d'édition belge et plus précisément par Benoît Peters. Alors moi je dis vraiment un grand merci, merci les Belges, parce que sans vous cette merveille n'existerait pas.
Effectivement, une très bonne maison d'édition, L'homme perdu dans le brouillard, aux Impressions Nouvelles. Merci beaucoup Marie, on part en Belgique tout de suite à Bruxelles avec Annick Dore. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes chargée des
merci
beaux livres.
Merci pour ce...
Oui, voilà. Effectivement, la transition est toute faite, Annick. Oui.
Oui.
Je même pas relevé. On a tellement l'habitude de parcourir le monde chaque semaine qu'au final, tout semble normal pour nous. Mais effectivement, Marie, vous tendez la perche. Alors, vous vous occupez des beaux livres cette semaine et il est question de l'évolution de la médecine avec vous.
Exactement. Alors, c'est publié aux éditions de La Martinière, une histoire de la médecine. C'est un livre magnifique grâce à une très, très belle iconographie et alors absolument passionnant. On suit en fait les avancées médicales depuis les premiers actes thérapeutiques, donc les extractions dentaires, par exemple, voilà. Aux joies, ou ouais. La pose d'attelle, jusqu'à l'avancée des neurosciences, en passant par la découverte par exemple de l'anatomie. Alors il y a du joli monde dans cet ouvrage, Hippocrate, bien sûr, Galien, Vézal, Louis Pasteur, Charcot et j'en passe, et la présence purulente, pourrait-on dire, de grandes maladies comme la syphilis ou la peste. Donc c'est un livre que je recommande pour sa lisibilité, mais aussi pour son exhaustivité. C'est vraiment un magnifique ouvrage.
Une histoire de la médecine, nous le souffle d'Hippocrate, aux éditions de La Martinière. Merci beaucoup Annick. À la fin de l'émission, vous entendrez le livre dont on parle au Canada et en France, avec Manon Trépanier de la librairie À Lire à Longueuil, qui est du côté de Montréal, et avec Agnès Gatef de la librairie L'Attrape-Mot à Marseille. Bonjour à vous deux. Bonjour Manon.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous au Canada?
Oui, tout va très bien.
Bon.
C'est juste un petit regret de ne pas être avec vous
oui.
En plateau.
Comme l'an passé d'ailleurs. Hein. C'est vrai que vous aimez beaucoup la Suisse. Vous restez avec nous tous les quatre, en tout cas, pour intervenir tout au long de cette émission avec nos invités. Des invités qui sont en plateau avec nous. Bonjour Véronique Tadjo. Prenez le micro, Véronique, je vous en prie.
Bonjour.
Nous parlerons de la Côte d'Ivoire tout à l'heure avec vous. L'émission sera très axée sur l'actualité, puisqu'il sera aussi question de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Bonjour, Daniel Deroulet.
Bonjour.
On vous connaît dans cette émission, je le disais tout à l'heure, vous avez donc publié un récit autour de cette catastrophe. Et dans un instant, nous serons avec l'écrivain suisse Michel Laya. Bonjour, Michel.
Bonjour.
C'est votre deuxième participation à la librairie. On est très heureux de vous retrouver ici sur ce Salon du Livre. Une question assez générale pour démarrer. ces bouleversements que l'on voit en ce moment sur le plan politique, écologique. Est-ce qu'ils peuvent amorcer, selon vous, une génération plus responsable, moins violente, ou c'est l'inquiétude qui domine, Véronique Taggio?
Je pense que la jeunesse a montré qu'elle avait un dynamisme qu'on avait ignoré pendant longtemps. On a cru que c'était une jeunesse qui en fait ne croyait plus en rien. Mais on le voit, je pense, au Japon, les jeunes se sont mis à relever le défi et à vouloir reconstruire leur pays.
Vous êtes d'accord avec cela, Daniel Deroulet?
Oui, je trouve que c'est le printemps des peuples un peu partout et que ceux qui se défendent de ce printemps sont de bien mauvaise foi. Et donc on va avoir aussi nous-mêmes à se remettre en cause sur deux, trois principes qu'on croyait simples.
Donc ces mauvaises nouvelles, elles peuvent aboutir finalement à une société un peu plus juste, un peu plus responsable, vous y croyez?
Oui, moi je crois.
Michel Laya, vous êtes d'accord?
Je suis un petit peu plus pessimiste. C'est toujours le tiraillement entre prendre parti sur tout ou se retirer de tout. J'ai l'impression qu'il y a aussi une génération un peu de mini qui ne s'engage assez peu, qui se préoccupe seulement de sécurité, de confort. Et bon, heureusement, ça bouge ailleurs, mais chez nous, c'est pas tellement le cas.
Avant de parler du nouveau roman de Michel Laya, de votre roman Michel, une histoire très étrange entre folie et érotisme, mais pas seulement, on écoute une reprise d'Alain Bachung par Stéphane Escher. Un CD hommage à Bachung est sorti cette semaine, en voici un extrait. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde. Stéphane Escher, Volute sur Radio-Canada, la radio suisse romande, la RTBF et sur France Inter.
La
librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Nous sommes au Salon du Livre de Genève, en public cette semaine, avec Michel Laya, notre premier invité. Alors Michel, vous êtes un auteur suisse très connu ici, vous avez publié 10 romans. Le dernier, Deux Sœurs, vient de paraître aux éditions Zoé. Deux sœurs fusionnelles qui se retrouvent seules dans la maison familiale suite à l'internement de leur père. Alors ce sont deux jeunes filles qui s'échappent comme cela du monde, de leur douleur aussi parfois, grâce à leur jardin. Et c'est une sorte de jardin des délices. Moi, j'ai beaucoup pensé à l'œuvre de Jérôme Bosch, le peintre néerlandais. On est un peu entre le paradis et l'enfer.
On est un peu entre le paradis et l'enfer, mais quand même un peu plus du côté du paradis, je dirais. C'est-à-dire qu'effectivement, ces deux sœurs sont, comme vous l'avez dit, fusionnelles. J'aime bien l'étymologie du mot merveilleux, qui est la même que celle du mot monstrueux. Hein. C'est montré comme ça. Elles sont un petit peu ambivalentes. Hein. Il y a des choses.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais.
il y a des choses qui sont de l'ordre du plaisir, mais il me semble quand même que le plaisir domine. Hein. La mort, elle est là, mais elle est toujours un petit peu. On n'est pas dans quelque chose de métaphysique ou d'ontologique ou comme ça. Elle est toujours un petit peu mise de côté. Et c'est peut-être d'abord par une sorte d'hymne à la joie, au plaisir aussi, hein, n'ayons pas peur du mot, que ces deux sœurs se réalisent.
Et le plaisir avec des jeux différents, des jeux variés, souvent sexuels. Alors elles vont pervertir leur assistante sociale tout d'abord, puis un jeune homme qu'elles rencontrent. Et d'ailleurs, on se demande si elles les pervertissent, ces personnes-là, ou bien si elles les sauvent des conventions.
Oui, moi j'utiliserais pas le terme de perversion, il est trop moralement connoté, disons. Mais plutôt elle leur ouvre des espaces nouveaux. L'assistante sociale, c'est un personnage qui incarne au début. Pour moi, ce personnage est assez important parce que c'est peut-être celui dans le livre qui bouge, se meut le plus, hein, se transforme le plus. C'est un personnage qui incarne la correction, l'hypercorrection, qui est effectivement très réglé, très corseté. Comme
la
ça,
norme et la règle.
La norme et la règle, voilà. Et puis, effectivement, au contact de ces deux sœurs, elle va être chamboulée, parfois un petit peu avec violence aussi. Hein. Les deux sœurs détestent quand l'assistante sociale se plaint, par exemple, de ses amours malheureuses. Mm-hmm. Alors, elles vont la boxer. Hein. C'est un petit peu la saumon des pauvres de Baudelaire que je reprends ici.
Elles vont tenter de la violer un petit peu, si je peux me permettre.
Oui,
aussi, oui. Enfin, jusque-là. Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'une sexualité un peu fantasmée, sans barrière, comme ça, puisse permettre de voir le monde autrement, parce que c'est ce qui se passe dans votre roman.
Alors, je ne sais pas si ça permet de voir le monde autrement, mais en tout cas, cette sexualité-là, cet érotisme-là, c'est plutôt une manière de se retirer, on en parlait en début d'émission, de se retirer, disons, de tous les heurts et de toute la violence qui nous entoure. Même si elles font aussi preuve d'une certaine violence, mais parfois plus par jeu, par détour et par subversion.
C'est un hymne à la vie, en tout cas, ce bouquin, Michel. C'est-à-dire que ces deux sœurs, elles disent à plusieurs reprises combien il faut vivre la vie, combien la vie vaut la peine d'être vécue, mais elles sont quand même dans une vie déraisonnable.
Quand vous dites elles sont dans une vie déraisonnable, bon voilà, c'est un jugement de valeur. Ce que j'aime, c'est qu'elles vont avoir la liberté. Elles sont libérées peut-être dès le départ. D'ailleurs, elles vont avoir la liberté de décider de ce qu'elles veulent créer, de ce qu'elles veulent engendrer, de ce qu'elles veulent faire naître. Mais en même temps, elles sont assez malignes parce qu'elles se pillent quand même à certains codes sociaux. Elles vont à l'école, hein, malgré tout. Elles font des très bons résultats. Elles savent comment, justement, être assistante sociale, parce qu'il faut rappeler qu'elles sont seules dans cette maison. Hein, leurs parents ne sont plus là. Elles savent exactement comment s'y prendre. Donc, en fait, elles sont aussi un peu retorses, hein, pour pouvoir exercer leur liberté.
Alors, Annick, pour la Belgique, ce texte vous a semblé un peu déraisonnable, justement, car un peu trop vaporeux, d'après ce que je sais, Annick.
Voilà, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un peut-être de trop terre-à-terre pour ce genre d'histoire, mais c'est vrai que moi, il y a eu trop peu de détails concrets. On reste dans quelque chose de très éthéré, de très vaporeux, comme vous dites, qui finalement ne dénonce pas grand-chose. Et en vous lisant, j'avoue que je ne voyais pas très bien où vous vouliez en venir. Ceci dit, j'ai une question. Alors, on a un petit peu l'impression que les deux sœurs sont les seules à parvenir à être heureuses, en s'extirpant entre autres des codes sociaux, en mettant de la poésie dans leur vie. Les personnages qui les entourent, ben, sont souvent, eux, très ternes, très aigris. Et d'après vous, est-ce que les gens sont à ce point tièdes et conventionnels? Et finalement, est-ce que c'est pas un constat très triste ou net de voir ça comme ça?
Michel Laya.
Bon, vous savez, moi, je suis pas très préoccupé par le fait de refléter une réalité. Les deux sœurs engendrent un monde Et en tant qu'écrivain, ce qui m'intéresse plus, c'est précisément d'aussi engendrer un monde qui, dans le fond, avec la réalité, a des liens qui sont effectivement assez distendus. Alors,
Est-ce qu'on peut effectivement transgresser comme ça les règles établies, comme le font vos personnages dans votre roman, sans être considéré comme un marginal?
Mais peu importe comment les autres vont les considérer. Enfin, c'est et alors, bon, voilà, on va vous considérer comme un marginal. Et alors, et après, enfin, il ne semble pas que ce soit quelque chose qui devrait freiner ou dès le moment où vous remplissez d'une certaine manière, est-ce qu'elles font quand même leur contrat social, ensuite on peut manœuvrer.
Mais vous avez un regard un peu désabusé comme ça sur le peuple en général, puisque la question d'Annick, c'est un peu ça aussi. Est-ce que vous les voyez aussi sombres que cela, les gens qui vous entourent, puisque les deux sœurs trouvent que les gens ne s'amusent pas assez, qu'ils ne vont pas assez loin justement dans la liberté, dans l'affranchissement comme ça des conventions?
C'est plutôt une vulgarité parfois qui pourrait être dénoncée, une vulgarité d'ailleurs plutôt masculine. Mes dénonciations, puisqu'on utilise ce terme, elles sont toujours assez discrètes. Il y a par exemple le chef du père qui incarne les gens qui ont un petit peu de pouvoir et qui l'exerce de la manière la plus obscène, puisqu'il viole en quelque sorte des femmes qui n'ont pas de papier pour pouvoir les engager quelques mois dans une usine. À un moment donné, les deux sœurs sont sur une passerelle d'un train et elles crient quand le train passe. Elles disent que ce cri, c'est pour se libérer de toutes les offenses qui sont faites aux femmes. Mais vous voyez, c'est deux, trois lignes, quoi. Moi, j'ai pas, mon but, c'est pas de m'apesantir.
Moi, c'est vrai que c'est assez onirique et que vous êtes plus dans le conte que dans le roman d'actualité.
Et c'est clair que si on a besoin de concret ou de se rattacher à des choses très concrètes, c'est vrai que c'est pas mes livres qu'il faut lire.
Marie, pour la suite, ça semble coincer un peu chez vous aussi.
Un petit peu, malgré des qualités évidentes. Moi, je trouve entre autres que vous avez un style très original. On sent que ce texte est travaillé. Et puis, on sent que rien n'est laissé au hasard. Les mots sont choisis autant pour leur sens que pour leur sonorité. Et en ce sens-là, je trouve que vous faites un vrai, vrai beau boulot sur le travail vraiment de la langue. Malheureusement, moi, ça m'a laissé un peu sur ma faim, principalement par manque de description des personnages, je dirais. Contrairement au jardin sauvage, bordélique, qui est magnifiquement décrit, les personnages, pour moi, ils n'ont pas vraiment pris corps. Ils sont restés peut-être certainement trop vaporeux. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression, tout le long de ma lecture, vous vouliez m'emmener quelque part, mais j'ai jamais trouvé où. Emmenez-moi, Michel.
Emmenez-moi. Attendez, Manon veut intervenir pour le Canada, parce qu'elle n'est pas du tout d'accord. Vous êtes partie donc avec Michel Laya, vous?
Oui, je suis tout à fait partie avec Michel Laya, Emmanuel, parce que je n'ai pas lu ce livre-là comme un roman, mais bien comme un recueil de poésie. J'ai apprécié la cascade de mots qui ruissellent puis qui produisent une musique, ma foi, enivrante. Et puis, j'ai trouvé que les images qui composaient l'œuvre sont aussi porteuses d'une magie lumineuse. Et ça m'a plu beaucoup. Et puis, sur le fond, je dois vous dire que j'ai particulièrement apprécié la façon dont Michel Laya exprime et illustre le pouvoir des mots et le pouvoir de l'écriture des livres. Le pouvoir des livres, finalement.
Le pouvoir des mots, effectivement, Michel Laya, et le pouvoir des images aussi. Il y a un arbre très important dans votre roman, un tilleul, où aurait pu aller d'ailleurs se réfugier Marie. Un tilleul qui est le refuge des sœurs, mais aussi du père. Et c'est peut-être cela le lieu de l'imaginaire et le lieu de la mémoire.
Oui, on peut. Vous avez tout à fait raison. On peut métaphoriquement le prendre comme ça. Il y a d'ailleurs toujours des arbres dans mes livres qui sont effectivement des lieux où on peut à la fois regarder au loin et puis se ressourcer, se concentrer sur soi-même. Et là, il y en a un. Oui, il y a ce tilleul qui effectivement domine le jardin. Je suis d'accord avec ce que la libraire. Enfin, d'accord. C'est-à-dire que la libraire de c'est vrai. Le
Manon du Québec.
Manon du Québec. Un écrivain. Bon, il y a toutes sortes de fonctions. On va parler des rôles de l'écrivain. Ce serait trop long. Mais disons que peut-être c'est à sa manière participer aussi à produire une forme de beauté. Et là, c'est le faire avec des mots et puis d'être pris ou pas quoi dans ce que ces mots proposent.
Et c'est vrai que c'est une forme de résistance pour vous la littérature.
Totalement.
Bon, on ne va pas raconter la fin, mais il y a comme cela une sorte d'image, encore une fois, que vous posez dans les toutes dernières lignes. Et cette différence, Michel Laya, que vous soulignez, est-ce qu'elle fait toujours peur, selon vous? Est-ce que, justement, c'est parce qu'elle fait peur que votre livre partage un peu les lecteurs?
Moi, je sais pas. Je pars du principe que voilà, quand on entre dans un texte, il y a des gens qui sont pris, il y a des gens qui sont captivés, il y a des gens qui sont emportés, il y en a qui ne le sont pas. Comment ça se passe, par quel mécanisme, etc. C'est assez compliqué. À un moment donné, en tant qu'auteur, vous savez que vous avez fait quelque chose qui vous satisfait, sur lequel vous vous arrêtez. Moi, j'ai pas de projet au départ, j'ai pas une intention de choses que je vais mettre en place précises, etc. Donc moi-même, je me laisse aller, ce qui peut effectivement dérouter, parce que c'est vrai que personnellement, un roman policier sur la torture, peut-être j'en lirai un, mais là...
D'accord, vous ne répondez pas à la question, Michel. Est-ce que la différence fait toujours peur, d'après vous, aujourd'hui? Est-ce que cette différence-là, que l'on retrouve dans vos personnages, elle est dans une société qui n'est pas prête à la recevoir?
Certainement, oui. Certainement, malgré tout, tous les discours de façade et même parfois les actes de façade qu'on peut avoir. Ouais. Je pense qu'elle n'est pas du tout prête à la recevoir, cette différence.
Donc votre livre, il peut servir aussi à ouvrir les esprits.
Peut-être. Espérons.
Vous le voulez ou pas?
Mais bien sûr.
Ah bon, d'accord, quand même.
Bien sûr.
Merci beaucoup, Michel Laya. Merci infiniment. Deux sœurs est publié aux éditions Zoé, un roman concis mais très dense qui nous entraîne dans une écriture étonnante. Il y a beaucoup de créativité dans votre style et dans votre histoire. C'est inquiétant et captivant à la fois. À suivre dans la librairie francophone, Daniel Deroulet pour un court récit autour de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Un petit livre entier, sans concession. Avant de poursuivre cette émission, voici le dernier titre de Joseph Danvers. Et on revient ici au Salon du Livre de Genève. Bonne soirée ou bonne journée à travers le monde. Joseph Danvers, Always Better, sur la première chaîne de Radio-Canada, de la Radio Suisse Romande, de la RTBF et sur France Inter.
C'est la plus grave crise survenue au Japon depuis la Seconde Guerre mondiale.
Pour les Japonais, c'est vraiment un désastre national sans précédent.
Il n'y a rien eu à Hiroshima.
Un accident nucléaire majeur.
J'ai vu les actualités.
Les dernières nouvelles de la centrale de Fukushima font état d'un risque de crise.
La librairie francophone.
Il n'y a rien eu à Hiroshima. Rien.
Emmanuel Kérad.
Nous sommes au Salon du Livre de Genève avec Daniel Deroulet pour un livre qui va créer l'événement. Il vient tout juste de sortir, Tu n'as rien vu à Fukushima, et paru aux éditions Buchet-Chastel. Alors Daniel, vous adressez une lettre personnelle à Kayako, une amie japonaise, au moment de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Vous dites que les Japonais, très pudiques, très réservés, pensent que leur malheur ne nous regarde pas. Et pourtant, cette catastrophe va concerner bien sûr le monde entier.
Oui, c'est une vraie lettre à une vraie amie que j'avais rencontrée exactement une année avant que les choses se passent. J'ai toujours écrit sur le nucléaire, j'ai un grand amour du Japon, donc je me sentais obligé de répondre quelque chose ou d'écrire quelque chose. J'ai écrit cette lettre très rapidement, c'est une lettre à une femme que j'ai connue, dont je rappelle certaines choses. Et ce qui me frappe toujours chez les Japonais, c'est effectivement, ils pensent que la compassion qu'on peut avoir pour leur catastrophe est mal placée, qu'ils se débrouilleront seuls avec leur malheur. Et ça peut être vrai quand il y a des tremblements de terre, ça l'est moins quand ça touche un phénomène comme Fukushima.
Alors Daniel, vous avez travaillé vous-même dans une centrale nucléaire suisse, et pourtant cela ne vous a pas empêché de manifester avec les anti-nucléaires. Alors est-ce qu'à un moment vous avez constaté que finalement on ne maîtrise rien dans la sécurité ?
La chose qui m'avait le plus frappé quand j'avais fait un programme informatique pour une centrale helvétique que j'avais dû aller installer dans la salle de commande, c'est qu'il y avait à l'intérieur de cette centrale des sprays, donc des tags, des chaulages, comme nous disions, enfin des injures contre le nucléaire. Et c'était été fait par les ouvriers qui faisaient les coffrages, le béton, etc. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que les gens à l'intérieur,
oui,
même, à l'intérieur
même
de la
oui.
centrale. Et moi-même, finalement, j'étais aussi un peu dans ce cas. C'est-à-dire, je suis fasciné par le développement de l'atome, la recherche sur le nucléaire, ce qui est la recherche sur notre propre origine du monde, du Big Bang, etc. Toutes ces choses me fascinent. Et en même temps, je pense que la technologie qu'on est en train de mettre au point, ou qu'on mettait au point dans les années 70, voilà, elle me laisse plein de doutes.
Alors maintenant, pour le Canada, vous voulez intervenir. Vous avez une question sur ce sujet pour Daniel Deroulet.
Oui, effectivement, Emmanuel, parce qu'écoutez, c'est un récit qui frappe fort. Il est court, mais tellement intense. Moi, je voudrais vous lever mon chapeau, Daniel Deroulet, parce que vous avez écrit ça presque à chaud. Et c'est une œuvre qui est pourtant très porteuse de réflexion et d'analyse. Et puisque vous avez beaucoup réfléchi justement à la question du nucléaire, j'aimerais savoir quelles seraient, selon vous, là, les meilleures façons d'obtenir de l'énergie pour les pays qui n'ont pas la chance, comme le Québec, d'avoir de l'hydroélectricité en abondance.
Alors, c'est vrai que Daniel, vous affirmez que depuis 40 ans, on aurait pu développer d'autres énergies. Quelle est l'alternative au nucléaire ? Est-ce que vous avez une réponse ?
Oui, je ne pense pas qu'on va faire un grand débat sur l'énergie. Il y a des gens qui ont fait des calculs, qui sont mieux placés que moi pour réfléchir à ça. Je pense simplement que même si il y a des difficultés d'approvisionnement immédiat énergétique si on fait l'impasse du nucléaire, c'est une technologie à laquelle il faut renoncer et il faut trouver au fur et à mesure qu'on sort de cette filière-là toutes les énergies renouvelables, depuis celles de la mer, de l'air, de la terre, et que les énergies fossiles, de toute façon, ne seront pas les énergies du 21e siècle.
Non, mais il faut trouver, vous le dites
bien. Il faut
trouver,
elles sont en train de...
Est-ce que c'est possible ? C'est ça la vraie question, parce que je vais me faire un peu l'avocat du diable, Daniel, mais c'est un peu dangereux ce que vous dites, parce que l'énergie nucléaire, on en a clairement besoin aujourd'hui, considérant notre consommation. Et au final, est-ce qu'il y a d'autres solutions ? C'est ça le vrai problème, en fait.
Alors, il y a d'autres solutions. Je ne vais pas les développer maintenant. Ce n'est pas la tâche de la littérature de faire des propositions. La tâche de la littérature...
Non, mais vous en parlez en tout cas dans le livre.
Donc, alors, je veux bien en parler, mais si vous voulez, je pense que là, il y a une hubris, il y a une démesure dans l'utilisation d'une technique qui nous met dans une situation impossible. Alors, est-ce que c'est bien de voyager dans un train qui n'a pas de frein ? Ou bien est-ce que, quand on voit un vélo passer, on peut se dire, tiens, c'est aussi une manière de voyager ?
D'accord. Ouais, c'est une forme de réponse. Annick, pour la Belgique, quelle est votre analyse ?
Mais écoutez, moi enfin, pour revenir, parce qu'on est en plein histoire du nucléaire, mais moi, ce que j'ai surtout trouvé intéressant que vous développez comme idée, c'est cette idée d'opportunisme technologique. Parce que finalement, on est les premiers à critiquer le nucléaire, mais on est aussi les premiers à utiliser des ordinateurs, des GSM, des gros mangeurs d'énergie. Et est-ce que la seule solution, c'est pas simplement de consommer moins, mais est-ce que l'homme moderne en est capable ?
Et
c'est pas ça un peu la solution, c'est surtout de moins consommer.
Je suis tout à fait d'accord avec cette piste-là. Je signale qu'il y a des pays comme par exemple l'Autriche qui ont construit une centrale nucléaire en 1972, qui ne l'avaient pas finie en 1986 et qui ont renoncé totalement, c'est la centrale de Zwentendorf, parce qu'ils étaient très proches de Tchernobyl. Et il n'y a pas de nucléaire dans ce pays-là. En Espagne, la centrale de Lemonis, ça n'a pas été finie. Donc il y a des possibilités. Je ne dis pas qu'il faut sortir tout de suite. Il faut 30 ans probablement pour sortir de cette catastrophe. Il ne faut surtout pas désespérer les ingénieurs du nucléaire, parce que ce n'est pas leur faute s'ils ont choisi ça. C'est des gens bien qui ont une responsabilité. Il faut leur laisser cette responsabilité pour qu'ils puissent ne pas être désespérés.
Daniel Deroulé, vous écrivez dans ce livre « Nous sommes pris à notre piège. Nous avons collaboré à un système que nous savions porteur d'une mort atroce et nous n'avons eu qu'un courage intermittent pour nos propres idéaux. » Et selon vous, Daniel, c'est l'arrogance de la technoscience qui vient de la défaite des antinucléaires. Vous expliquez en substance que la résistance est trop faible. Et les arguments de l'autre côté sont très bons.
C'est exact. Je pense que ceux qui ont été, qui ont milité contre le nucléaire dans les années 70 et 80 ont subi une défaite. Ils ont été écrasés par une argumentation de type un peu démagogique. Et aussi parce qu'ils n'avaient pas envie de consacrer toute leur vie à un péril qui leur semblait évidemment de plus en plus lointain au fur et à mesure que s'éloignait le spectre de Tchernobyl. Et je dis, nous avons eu un courage intermittent. Et en ce sens, mon livre est aussi une espèce de confession sur justement sur le courage qu'on n'a pas eu et qu'on voudrait avoir eu. Et j'essaye de dire qu'aujourd'hui, si les gens qui ont mon âge, qui ont peut-être des petits-enfants, il faut qu'ils puissent les regarder dans les yeux et dire, voilà, on a tout fait pour que cette catastrophe ne se produise plus.
Daniel, vous racontez qu'il y a un nouveau combustible, le MOX, c'est ça, on le prononce comme ça, qui a des propriétés intéressantes, mais qui serait impossible à retraiter en raison de sa teneur en plutonium. C'est-à-dire que quand le nucléaire nous échappe, et on l'a vu d'ailleurs à Fukushima, on ne peut plus rien faire. C'est bien plus fort que nos techniques et encore plus fort que nos compétences.
Oui, c'est vrai. Actuellement, le grand problème du nucléaire, c'est comment démanteler le cœur, comment faire le démantèlement des cœurs. Par exemple, nous avons à Malville un sodium qui est toujours à 180 degrés. On va mettre jusqu'en 2030 pour essayer de le démonter, si on y réussit. Et donc, il y a une espèce de fuite en avant de donner un nouveau combustible. C'est quand même le combustible du réacteur numéro 3 de Fukushima. Et les ingénieurs d'Areva qui étaient sur place ce jour-là, ces ingénieurs-là, on leur a dit de partir immédiatement. Mmh. Donc on a beau jeu ensuite de dire qu'on joue avec la peur, mais en fait, c'est ceux-là même qui sont partis de ce site à ce moment-là.
Donc on va vers le pire, en fin de compte.
Non, je ne dis pas qu'on va vers le pire. C'est ce que j'appelle le catastrophisme éclairé. C'est-à-dire il faut voir jusqu'où peut aller la catastrophe pour bien comprendre où est-ce qu'il faut l'arrêter. Et donc c'est comme des choses qui nous paraissaient impossibles semblent aujourd'hui possibles. Il faut tout faire pour qu'elles retournent vers l'impossible.
En tout cas, c'est terrible parce que vous expliquez dans ce livre-là que dès le début du nucléaire, dans les années 40 aux États-Unis, on ne savait pas vraiment quelles étaient les conséquences. Alors pour mesurer ces conséquences-là, on prenait des tribus d'Indiens et on les irradiait pour voir ce que ça allait leur faire.
Il se trouve que c'est les gens qui habitaient autour de Hanford qui ont été irradiés. Il y a eu des rapports dans les années 90 seulement où ces gens ont dit qu'il y avait quand même trop de morts dans leur tribu et voilà. Donc on a fait des essais, on ne savait pas en fait. Moi-même quand j'étais petit, je me souviens toujours de ça, j'allais chez un marchand de chaussures et on devait mettre le pied dans les rayons X et puis on pouvait regarder son pied bouger. Et moi j'ai passé des heures à mettre mes pieds dans les rayons X. Ouais. Plus tard on m'a dit que c'était pas un bon gadget commercial.
Non, loin de là. Marie Musy, vous voulez poser une question à Daniel Deroulé, vous êtes face à lui ici au Salon du Livre de Genève.
Je vérifiais juste qu'il avait encore des pieds. Pour revenir plus précisément à la catastrophe de Fukushima, vous écrivez que les journalistes qui ont quitté le Japon ont fait preuve de lâcheté professionnelle. Alors vous parlez en connaissance de cause, vous connaissez bien le nucléaire, les risques et tout ça. Vous trouvez vraiment que ce soit lâche? Est-ce que là, justement, on a manqué de catastrophisme éclairé, comme vous le disiez?
Alors, je pense que la question des journalistes a été un peu trop vite traitée, parce que je crois que c'est les Français qui ont demandé à leur personnel de rentrer, et on a laissé d'autres journalistes qui travaillaient sous d'autres nationalités travailler sur place. Et il y a un correspondant qui travaille sous différents noms au Japon et que je trouve extraordinaire comme il a continué de faire son travail. En même temps, je comprends très bien, si moi-même je m'étais trouvé à cet endroit-là avec, par exemple, un enfant dans le ventre d'une femme enceinte, je lui aurais sûrement pas dit de rester là avec moi par héroïsme mal placé.
Mais même pour soi, Daniel, à un moment, il y a une sorte de survie humaine. Quand on sait qu'on va être irradié et qu'on va subir toutes les maladies qui sont possibles derrière, on s'en va, non?
Enfin, on s'en va. On s'en va, mais alors on crie dans le monde qu'on a dû s'en aller et on se tait pas, comme font les journalistes qui sont rentrés et qui disent « Est-ce que vous avez un autre job? Je préférerais partir dans un pays plus tranquille. »
Merci beaucoup Daniel Deroulet, merci infiniment. Tu n'as rien vu à Fukushima est publié aux éditions Bûcher Chastel, un petit livre essentiel qui raconte les dangers du nucléaire dans une approche littéraire et personnelle. Un livre accessible à tous d'ailleurs, vendu 2 euros ou l'équivalent en francs suisses et en dollars canadiens. Nous poursuivons cette émission spéciale au Salon du Livre de Genève avec le Salon africain intégré dans cet événement et avec Véronique Tadjo qui nous emmène cette fois en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, on écoute un artiste très engagé, originaire de la Côte d'Ivoire justement. Voici Tikanja Fakoli avec les collaborations de Soprano et Magic Cherfi. On ouvre les frontières avec eux dans la librairie francophone sur les radios francophones publiques.
Alors ouvrez-nous la voie. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venir dans le beau. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières.
Kenja Fakoli, ouvrez les frontières sur les ondes de France Inter, de Radio-Canada, de la Radio Suisse Romande et de la RTBF.
Et moi, j'aimerais aussi souligner le côté la beauté, parce qu'on a besoin de la beauté. C'est ça, on a envie de bouffer des roses, de avaler des bégonias.
La librairie francophone.
Je suis une sale bonne femme, je suis une sorte de volcan. Et plus les années passent, et moins ça se recommence.
Emmanuel Kérad.
Mais non, ce n'est pas une sale bonne femme, Corinne de Sarzan, auteure suisse, qui était passée dans la librairie francophone. Vous écoutez l'émission culturelle et littéraire des radios francophones publiques. Nous sommes donc à Genève, au Salon du Livre. Véronique Tadjo, vous êtes l'une des invitées du Salon africain du livre et de la presse. Ici même, vous avez publié Loin de mon père aux éditions Actes Sud, un roman qui rend compte d'une histoire familiale, probablement une partie de la vôtre. Et d'ailleurs, vous troublez un peu la vérité parce que, en introduction, vous dites que cette histoire est vraie, qu'elle est ancrée dans la réalité. Mais elle est fausse également, car dans un travail littéraire, je cite, tout est revu.
Oui, c'est exact. Je crois que...
Vous avez recomposé votre histoire, alors.
Oui, enfin, il y en a qui appellent ça de l'autofiction, ou alors... Mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est simplement que le travail littéraire, c'est autre chose. C'est une reconstruction de la vie. C'est pas la vie elle-même. On la reconstruit pour la rendre encore plus vraie. Voilà.
Et elle sonne très vraie d'ailleurs hein, dans ce roman. À travers la littérature, vous portez un regard sur la Côte d'Ivoire, le pays de votre père, celui où vous avez grandi aussi. Tous ces conflits ont changé le pays et vous dites que pour y vivre aujourd'hui, il faudrait renier sa mémoire.
Oui, en quelque sorte, parce que vous savez, on a toujours un peu de nostalgie, surtout quand on est à l'étranger, surtout quand on est en exil. Mais au départ, j'appelais pas ça l'exil. Pour moi, j'étais à l'étranger et je pouvais revenir quand je voulais et quand ça me plaisait. Mais malheureusement, avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, avec le conflit qu'on connaît, eh bien, ça, il y a eu une cassure et ce qui fait que le pays n'est plus le même, on le reconnaît plus et c'est là que l'exil commence.
Alors vous l'expliquez très bien cela parce que comme dans de nombreux pays africains, comme dans de nombreux romans sur l'Afrique aussi, Véronique, la corruption est omniprésente. Une génération entière a construit les bases d'une sorte de société parallèle, comme s'il n'y avait plus de lois, plus de règles. Et l'un des personnages dit que c'est à cause de cela que le pays s'est retrouvé à plat. Vous
oui,
êtes d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, il faut remettre tout ça dans un contexte global. C'est-à-dire, bon, on peut très bien parler de la mondialisation et des effets catastrophiques qu'elle a dans des pays comme la Côte d'Ivoire, dans les pays du tiers-monde en général. Je veux dire qu'il y a toute une génération qui a été en quelque sorte sacrifiée et on a aussi privilégié des élites. Qui du coup s'en sont donnés à cœur joie et qui sont tombés dans des excès.
Annick, pour la Belgique, ce roman ose des choses d'ailleurs, Véronique est en train de l'expliquer. Cela ose affronter la réalité pour vous?
Oui, et surtout l'air de rien. C'est vrai que vous mettez le doigt sur des travers de la société ivoirienne, par exemple la polygamie derrière une monogamie de façade, ou bien l'hypocrisie qui entoure certains couples mixtes. Ou encore les demandes incessantes d'aide financière de la part des voisins de ce haut fonctionnaire, en l'occurrence le père dans l'histoire. Et ce qui est également, je trouve, très touchant dans votre texte, c'est que malgré un deuil difficile, votre héroïne, elle arrive à tirer du positif de tout ça, de la situation, elle se découvre une fratrie et sans doute l'enracinement qui lui manquait. Donc je trouve que vous nous offrez un beau roman. Voilà, merci beaucoup.
Alors, c'est vrai que votre personnage découvre beaucoup de choses aux funérailles de son père. C'est pour cette raison qu'elle retourne en Côte d'Ivoire. Elle arrive sur place et elle se découvre des frères et sœurs. Et on lui a caché tout cela. Elle se dit finalement, je croyais connaître mon père, mais c'est un grand gouffre qui nous sépare.
Oui, c'est exact. Enfin, c'est un peu un classique, hein, l'histoire du père qu'on retrouve, enfin qu'on ne connaissait pas,
ouais.
Avec qui on a vécu pendant longtemps. Donc ça s'est déjà fait. Mais ce que je voulais montrer, c'était aussi ce qu'il y a dans l'attachement. C'est-à-dire quand on dit qu'on aime quelqu'un ou qu'on aime un pays, qu'on aime, voilà, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Voilà.
Et jusqu'où va-t-on? Ouais.
Jusqu'où va-t-on dans cet attachement? Et au bout d'un moment, ça, on passe à l'engagement.
Est-ce que lorsqu'on dissimule, on aime vraiment? C'est un peu aussi cette question.
C'est aussi la grande question, oui.
On s'arrange avec la réalité, puis après, au final, quand on réfléchit.
Mais vous savez, j'ai reçu des lettres venant d'un peu partout, et en particulier une de la Suisse, puisqu'on est... On est en Suisse, là, qui disait, oui, voilà, à la mort de mon père, on a découvert que, etc., etc. Donc, c'est un phénomène, quand même, qui est
universel
malheureusement.
Maintenant, pour le Canada, ce livre vous interpelle également. Vous y êtes reconnu, retrouvé.
Écoutez, j'ai beaucoup aimé ce roman-là, Emmanuel, justement, pour le très, très beau portrait de femme là, que Véronique Tadjo nous brosse. Mais j'ai aussi apprécié la façon sensible et très touchante là, qui est là de nous montrer le choc des deux mondes sur fond de chaos politique très actuel. Véronique Tadjou, j'ai une question pour vous. Parce que dans votre livre, vous ne semblez jamais porter de jugement. Néanmoins, j'aimerais bien connaître votre position de femme et de citoyenne occidentale et africaine là, par rapport à la polygamie.
Bon, oui, c'est vrai. Non, je ne porte pas de jugement parce que qui suis-je pour juger quelqu'un, même si c'est mon père. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la polygamie a été pervertie. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les règles de la polygamie ne sont pas suivies. Et donc, c'est aussi ce qui se passe au niveau d'autres coutumes traditionnelles qui sont complètement... Enfin, qu'on a perdu, en fait, et qui se retrouve en milieu urbain, et personne ne sait plus quelle est la véritable coutume. Donc, c'est un peu du n'importe quoi, et c'est pour ça qu'on est dans une confusion totale. Sinon, la polygamie existe depuis des millénaires, et donc, c'est quand même quelque chose qui a des règles bien établies.
Nina, en tout cas, a une idée très dure. Elle formule comme ça des phrases assez frappantes sur la Côte d'Ivoire. Quand la question se pose d'y rester, de ne plus repartir, elle dit « Il existe beaucoup d'autres pays plus accueillants. Pourquoi gâcher sa vie ici ?» Et ça, c'est un grand débat, Véronique Tadjou, qui pose cette question. Est-ce qu'il faut concevoir notre monde avec des citoyens du monde, sans frontières? Ou est-ce qu'on doit construire des sociétés adaptées à la culture de chacun, avec donc forcément une assignation à résidence, en quelque sorte?
Mais c'est plutôt la question de l'engagement et puis aussi de savoir qu'est-ce qui fait qu'on est retenu par un pays. Qu'est-ce qui fait qu'un pays, vous l'appelez le vôtre. Et c'est ça, parce que si on prend par exemple un pays qui est comme la Côte d'Ivoire qui est en plein tourment, pourquoi effectivement, si on a le choix, y retourner? Pourquoi aller y vivre? Mais en même temps, c'est évident que il y a un appel et que le personnage Nina veut répondre à cet appel.
Marie pour la Suisse, vous êtes face à Véronique Tadjou ici sur ce salon du livre de Genève où il y a beaucoup de monde autour de nous.
Absolument. Et pour être honnête, moi je craignais un petit peu cette lecture parce que ce sujet de la mort du père a déjà été traité des millions de fois en littérature. Mais je trouve que vous en faites quelque chose d'assez unique parce que finalement ce que vous nous dites c'est qu'on peut perdre mais on peut gagner aussi. Nina perd son père, mais elle gagne une famille, elle gagne des frères et sœurs qui vont avoir une importance assez capitale d'ailleurs, dans sa reconstruction face à ce deuil. Et par rapport à ça, moi j'ai une question, c'est un gros secret de famille qui est clos à la mort du père. Est-ce que vous pensez que forcément la mort agit comme un espèce de révélateur de ces secrets-là?
Absolument. La majorité des gens. Parce que les gens pensent qu'ils partent avec leurs secrets en mourant, mais en fait non, pas du tout. Parce que on veut comprendre ce qu'on a perdu et donc en général tout ressort comme ces femmes qui viennent taper à la porte et dire que elles ont des enfants. Ben voilà,
et puis on fait des recherches aussi. Votre personnage fait des recherches. Elle tombe sur des choses qui ne lui plaisent pas, mais il ne fallait pas chercher.
Oui. Regardez par exemple, quand il y a un deuil, on se met à ranger. Ouais. On ouvre l'armoire, on ouvre les valises, on ouvre tous les tiroirs.
Effectivement. Agnès, pour la France, vous avez été séduite par ce roman « Loin de mon père ».
Oui, j'ai trouvé que c'était une belle interrogation subtile et sans jugement sur le métissage, tant culturel que personnel. J'ai trouvé que votre écriture presque sèche se mettait vraiment au service du propos. Et il m'est revenu en mémoire un livre que j'ai lu il y a un certain temps de Jérémy Doucan qui s'appelait « L'aventure ambiguë ». J'ai beaucoup pensé à ça parce que je pense que c'est le terme, ambiguïté, l'ambiguïté de la double culture et comment l'affronter.
Oui, en fait, oui, j'ai lu tous ces livres-là. Vous pouvez même ajouter Maria Maba, une si longue lettre, mais d'autres livres, et j'ai pris plaisir à justement me nourrir de ces lectures-là et essayer quelque chose de nouveau, peut-être.
Et vous pointez du doigt, effectivement, le métissage, Agnès vient de le dire. Votre personnage, à un moment, vous la décrivez comme une femme qui a une cassure en elle, une impossibilité de vivre où que ce soit. Est-ce que, justement, c'est parce qu'elle est métisse qu'elle n'arrive pas à trouver ses racines?
Vous savez, pendant un moment, on a dit « Ah, le métissage, c'est l'avenir du monde, c'est oui, fantastique, c'est merveilleux, c'est blablabla. »
On le dit encore, d'ailleurs.
On le dit encore, mais moi, je dis non, ça peut être très douloureux parce qu'on n'est jamais assez ou on est trop ou on est... Voilà, on n'est jamais... Donc, il y a tout un travail à faire sur soi-même et c'est pas gagné d'avance.
Alors maintenant que la Côte d'Ivoire a un seul gouvernement, que la situation est un peu clarifiée, que l'espoir renaît quand même un peu dans le pays, est-ce que vous vous sentez prête pour y retourner. Est-ce que vous ressentez d'ailleurs cet espoir, Véronique Tadjo?
J'allais dire que je n'ai jamais quitté la Côte d'Ivoire et je retourne régulièrement. Mais ceci dit, pour le moment, je ne suis pas en état de me réjouir parce que ça nous a coûté beaucoup trop cher tout ce qui s'est passé. Et le pays est encore plus cassé qu'avant et donc il y a des défis énormes. Donc ce n'est pas encore le moment des célébrations.
Est-ce que ce n'est pas le moment pour les Africains, pour les Ivoiriens de prendre les choses en main justement?
Ben, écoutez, c'est pas seulement ça. Moi, je pense que il faudrait qu'on voit notre monde d'une manière un petit peu plus plus solidaire, parce que je pense qu'on est tout est entrecoupé et ce qui se passe dans un endroit a une conséquence sur ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'on le sait maintenant. Hein, on est les mêmes doigts de la main.
Merci beaucoup, Véronique Tadjo. Loin de mon père est publié aux éditions Actes Sud, un roman qui nous fait voyager et qui pose une réflexion sur l'avenir de la Côte d'Ivoire à travers un récit très personnel. Merci, Véronique.
Merci, Nadia.
Avant de conclure avec nos libraires, nous adressons toutes nos pensées et notre solidarité à Khaled Sid Mohand, journaliste indépendant, collaborateur de Radio France et du journal Le Monde. Installé à Damas, en Syrie, il devait relater les bouleversements actuels. Depuis le 9 avril, il est incarcéré en Syrie sans raison et sans explication. Ses proches sont inquiets. Ses étudiants en journalisme francophone de l'université libanaise où Khaled enseignait aussi. Tous demandent sa libération. Alors comme eux, eh bien, nous nous mobilisons pour lui et pour la liberté de la presse.
C'est l'histoire en fait d'une petite
fille. C'est un album qui est raconté sous forme de
trois textes qui sont qualifiés de longs poèmes en prose.
Et on termine cette émission depuis Genève avec la deuxième partie de la chronique de nos libraires. Nous partons dans le sud de la France, tout de suite du côté de Marseille. Il y a Agnès Gatef, libraire dans la librairie La Trappe-Mot. Alors Agnès, vous allez nous parler d'un nouveau roman signé Isabelle Jarry.
Oui, je vais vous parler un peu d'amour.
Allons-y, terminons sur cette note-là, vous avez raison.
Avec La Voix des êtres aimés, publié chez Stock, Isabelle Jarry, en fait, nous joue un petit peu, je pensais beaucoup à Jacques Brel et à sa chanson Des vieux amants. Elle nous parle d'un couple qui se retrouve 15 ans après sa séparation, l'un des deux est mourant. Mais dans un huis clos de quelques jours, tendre, subtil, ils vont revivre leur passion, le désir, s'interroger sur le sens de la vie et les années perdues. Je trouve qu'on retrouve là réunies toutes les qualités que j'aime chez Isabelle Jarry, sa maîtrise, sa subtilité, son style toujours limpide, qui me donne une très très grande force d'émotion à ses retrouvailles ultimes.
Isabelle Jarry, qui est d'ailleurs l'auteur de nombreux ouvrages, hein, romans, récits, biographies, elle est confirmée dans le monde littéraire. C'est aux éditions Stock son dernier roman, La Voix des êtres aimés. Merci Agnès, on termine avec Manon. Merci. Pour le Canada, dans la librairie à lire, il est question du grand historien québécois Denis Vaugeois, qui se penche cette fois sur l'histoire des premiers juifs d'Amérique, Manon.
Effectivement, Emmanuel, vous savez, depuis 50 ans au moins, là, l'historien Denis Vaugeois se passionne pour l'aventure des juifs en Nouvelle-France, puisqu'il leur a consacré son mémoire de maîtrise. Cette fois, il nous offre un album richement illustré, où il nous raconte les tribulations de Aaron Hart et de son épouse, qui sont arrivés à Trois-Rivières en 1760. Ils ont eu trois fils, et c'est là que ça devient très intéressant, parce que cet essai-là se lit comme une saga familiale. Vous savez, il y a la politique, la manigance, l'argent, et puis les fresques du frère aîné. Ça s'entremêle avec la découverte aussi d'une culture qui est très différente et, ma foi, fort intrigante. Vous savez, c'est un album instructif, passionnant. Et puis, il y a aussi la petite touche d'humour propre à M. Vaugeois, que je salue parce qu'il écoute régulièrement l'émission.
Et je le salue également. Je vous conseille d'ailleurs son Atlas, La mesure d'un continent, qui raconte l'Amérique du Nord, un livre de référence dont on a parlé dans cette émission. Denis Vaugeois, Les premiers juifs d'Amérique, aux éditions Septentrion. Merci Manon, merci à tous nos libraires dans les pays francophones. Au revoir à tous.
Au revoir. Au revoir, Daniel.
Et bonne semaine. Au revoir, Daniel Deroulé, Michel Laya, Véronique Tadjo. Merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau de la RTS, qui était d'ailleurs filmé avec plusieurs caméras. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site internet de la RTS. Bonne semaine en Suisse, en Belgique, en France, au Canada et à travers le monde. C'est la fin de cette édition coproduite et diffusée par la première de la radio suisse romande, RTBF, de Radio-Canada et par France Inter. Toutes les infos à propos de l'émission, c'est sur la librairie francophone.com. site sur lequel je vous retrouve grâce à un lien Facebook à la réalisation Anne Weinfeld, avec Sylvain Michel et Thierry Galochet, Muriel Pérez à la programmation musicale. La rédaction Jean-Philippe Verret, Élise Lafargue en France, René Miquil, c'est Valérie Elput en Belgique, Claude Godin avec Elsa Pépin au Canada, Martine Béguin-Felet et Sylvie Tanet ici en Suisse. À la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio francophone. Nous serons en France et nous parlerons notamment du Festival de Cannes avec Serge Toubiana. Bonne semaine à vous.